Shop. Le
Québec se lève. Les finances, l'économie, c'est compliqué? Pas avec Francis Gosselin.
Les finances, l'économie, mais aussi l'immobilier, parce que notre économiste Dette Métal est aussi un bolet de l'immobilier. Salut Francis!
Salut, comment ça va, Paul-Raphaël?
Ben là, ça va particulièrement bien parce que depuis que les gars font les nouvelles, les sports, moi, j'arrête pas de scruter le site de iGo Cordless que tu m'as envoyé où ils vendent plein de produits sans fil à batterie, des tondeuses, des souffleurs à feuilles, coupe herbe, taille S, siachin. Je suis en train de me monter. Il y a même des brosses à poils là, pour enlever les.
Une chaîne, ça?
Pour enlever les cailloux sur le terrain.
Moi, j'ai la chaîne, ça, les gars. Quoi? Ça marche super bien. J'ai la souffleuse à neige. Pis c'est les mêmes batteries. Fait que tu achètes un kit de batterie puis après, tu t'es passes d'un appareil à l'autre. Puis j'ai pas encore la tondeuse. Elle est très difficile à trouver cet été. C'est la folie. Tout le monde la veut. Fait que c'est non. Vraiment des beaux produits.
Ben, moi, j'ai une tondeuse puis une souffleuse sans fil aussi. Mais c'est à gaz.
Hey, Francis, si je voulais qu'on se parle ce matin, c'est que tu as écrit un texte cette semaine sur Realtor.ca, un texte de blog sur l'engouement des gens pour les chalets. Avant la pause, j'expliquais qu'évidemment, ben, le marché immobilier est en explosion depuis un an. C'est la folie furieuse dans l'immobilier pour principalement l'unifamilial. En tout cas, moi, c'est ce que je connais, là. C'est là-dedans que j'ai été dans la dernière année. Mais qu'est-ce qu'il y en est des chalets?
Ben c'est ce que comme tu dis, j'ai commencé ce nouveau blog là chez Salon, qui est la version française de Realtor.ca. Puis donc c'est un premier texte là, que je signais sur le marché des chalets, donc qui, comme les résidences unifamiliales et les condos, est en explosion là, cette année. Puis on prévoit que ça va se poursuivre. En fait, j'étais même surpris que ça soit pas pire, parce que comme vous le savez, avec la pandémie et tout ça, les gens ont beaucoup quitté les centres là, tu sais, à Québec, à Montréal. Notamment, là, les gens, c'est comme un exode centre-ville vers la périphérie. Oui. Dans un premier temps, vers la banlieue, mais souvent même plus loin, là, donc à la campagne carrément. Les gens s'installent au bord d'une rivière, au bord d'un lac, dans le milieu de la forêt. Puis ça fait que ben là, la quantité de chalets, elle a pas tant progressé dans les deux dernières années, alors que la demande, elle a complètement explosé. Fait que ça a donné un petit boost, comme on dit, là, au prix des chalets.
J'imagine que le télétravail est en partie responsable de ça. T'sais, moi, je m'imagine. Je regarde d'ailleurs ma conjointe qui est dans cette situation-là. Là, ma blonde, c'est une fille de nature, de plein air. Elle, l'idée de vivre dans un chalet où il y aurait de l'Internet qui lui permette de travailler, mais pouvoir directement sortir de la maison une fois qu'elle est débranchée puis être dans le bois, être sur le bord de la rivière, sur le bord du lac, c'est dur de rêver de mieux que ça, là.
C'est ça, exactement. Donc, c'est pas mal ça qui est en train de se passer. Puis ça fait que, donc, dans le fond, l'objectif du texte, ben évidemment, c'est de relater des faits, là, c'est-à-dire par rapport au prix. Mais ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que, tu sais, pour beaucoup de gens, puis moi, c'est mon cas, là, j'ai toujours été propriétaire ou locataire dans des condos, tu sais. Fait que, dans le fond, t'as tes pieds carrés, t'as un syndicat de copropriété, tout ça. Là, de passer à une maison, puis je sais que, tu sais, pour des gens qui ont une unifamiliale, c'est peut-être pas une grosse surprise, mais t'as un petit peu de dire, ben, tu sais, il y a des coûts qui sont associés à ça, posséder une maison à la campagne. Déjà, c'est loin. Déjà, tu sais, t'es pas là tout le temps. Éventuellement, faut protéger ça. Il faut l'entretenir. Il faut prévoir dans la durée, etc. Fait que ça vient avec pas mal de coûts qui sont un petit peu différents, là, de la copropriété. Puis, je pense que c'est important que les gens qui sortent des centres-villes pour aller s'installer à la campagne soient conscients de ça. Un truc que, encore une fois, en brainstormant puis en préparant l'article, là, mais c'est quand même assez fou, juste le coût de se déplacer entre sa résidence principale et résidence secondaire. Les gens souvent sous-estiment ça, mais tu sais, si ça te coûte 100 pièces par semaine, mettons, pour y aller, aller-retour, mettons, tu sais, à la fin de l'année, ça fait quand même une bonne dépense, tu sais. Fait que juste ça, c'était quand même un coût qui me semblait significatif. Puis donc, c'était un petit peu, dans le fond, de rapporter là, l'ensemble des coûts pertinents pour la possession d'un chalet.
Moi, il y a une question que je me pose depuis un bout de temps, Francis, par rapport au fait que, tu sais, que les gens ont un peu déserté les centres-villes d'une certaine manière, là. C'est que, bon, dans le cas du résidentiel, OK, on voit le phénomène, l'étalement urbain, c'est correct. Mais qu'est-ce qui va arriver de tous les des milliers, voire des millions de pieds carrés qui sont présentement dans des tours, dans des énormissimes bâtisses qui accueillaient des compagnies d'assurance, des institutions financières, le gouvernement, tu sais, les Desjardins, ces gens, tu sais, ces compagnies-là ont déjà pour certaines annoncer qu'ils poursuivraient une part de télétravail, une part de travail en présentiel, là, je devrais dire en présence physique, parce que je suis curieux du mot présentiel. Mais il va y avoir à un moment donné de la disponibilité de ces pieds carrés-là. Je veux dire, les compagnies ne vont pas garder autant d'espace de bureau inutilisé. Qu'est-ce que tu entrevois pour l'avenir de ce côté-là?
Ben, c'est drôle que tu en parles, puis c'est pas tout à fait dans l'article, mais j'ai fait aussi plus récemment là, avec mon équipe une étude sur justement le futur des bureaux pour l'A2C, là, c'est l'Association des agences de publicité là, et de communication au Québec. Puis on a sondé plein d'agences, ces agences de publicité, là, Cossette, Sidley, puis les plus petites aussi, puis savoir justement c'était quoi leur intention. Puis ce qui est vraiment intéressant pour moi, il y a comme deux réponses à ta question. La première, c'est qu'à court terme, je dirais que court moyen terme, dans 2-3 ans, on risque de continuer à vivre avec une certaine menace COVID ou en tout cas une certaine considération COVID. Ouais. Fait qu'il va y avoir beaucoup moins de gens qui vont revenir dans les bureaux, mais les gens vont être dans les bureaux plus distants les uns des autres. Là. Fait que tu sais, je fais de la chimie 101, là. Ouais. Il va y avoir moins de particules dans le même bucket.
Je comprends. Ouais, ouais.
Puis ça fait qu'on va garder à peu près les mêmes pieds carrés. À long terme, évidemment, comme tu dis, c'est sûr qu'il va y avoir moins d'humains là, probablement dans les centres-villes parce qu'on va être probablement en alternance, ce qu'on appelle le mode de travail hybride. Fait qu'il va y avoir, mettons, 40, 50, 60 de la main-d'œuvre qui va être dans ces tours-là. Là. Tu parles des jardins, Banque nationale, tu sais, les grandes tours là, qu'on a. Puis il y en a dans plusieurs villes aussi, à Trois-Rivières ou à Drummondville, tu sais, il y a une certaine densification qui se produit là, pendant la journée. Mm-hmm. Ben ça, on risque de voir ça diminuer, ce qui est en train d'être examiné par beaucoup d'organismes. Puis j'en parlais avec Jean-Marc Fournier là, à l'IDU, qui est le regroupement de tous les grands propriétaires. C'est qu'en fait, on va convertir beaucoup de ces tours-là dans d'autres sortes d'usages. Fait que la première possibilité, c'est des usages plus flexibles, type bureaux sur demande. Fait que okay. Tu as besoin d'un bureau pour la journée toi, ben puis ton mettons que ton employeur il est full, ben tu vas pouvoir avoir un bureau à l'étage au-dessus, etc.
Ce qui était déjà un phénomène qu'on commençait à voir un peu justement, tu sais, à Québec par exemple, il y a beaucoup de compagnies de numérique, des startups qui n'étaient pas nécessairement rendues à l'étape d'avoir un certain nombre de pieds carrés justement, donc qui louaient des espaces au mois là, tu sais, pour avoir des
exactement
accès à des bureaux,
ou même à la journée, hein, c'est tu sais des trucs là, comme WeWork ou tu sais ce genre de coworking très très flexible dans le sens qui vont te permettre peut-être de venir. Puis ce qui est même intéressant, c'est que mettons toi t'avais une business à Lévis là ou je sais pas là, tu sais, à Stoneham, mais là tu vas te dire ben pourquoi j'aurais pas aussi un genre de pied à terre commercial dans le cœur de la ville, tu sais, ce qui fait que tu vas avoir besoin moins intensément, mais tu vas couvrir une partie, dans le fond, des frais de ces espaces-là partagés. Puis évidemment, l'autre possibilité, puis ça, c'est surtout, je pense, à Montréal qu'on va le voir, c'est carrément de la conversion vers du résidentiel. Là, tu sais, je te parle dans les grandes tours, là, il va y avoir des étages complets qui risquent d'être transformés. Il y a des nouvelles propositions aussi qui sont intéressantes dans le domaine du résidentiel. Je sais pas si vous avez entendu parler de Sonder, là, c'est une entreprise canadienne, montréalaise, en fait, qui est cotée en bourse. Dans le fond, ce qu'ils proposent, c'est un peu comme du Airbnb, mais de long terme. C'est-à-dire que si, mettons, je sais pas, là, un de vous, le Vez, il vient animer à Montréal pendant une semaine là, ou un mois, là, ben, c'est comme du... C'est pas du Airbnb genre à la nuit, mais c'est, mettons, t'as besoin d'un mois, un appart tout fourni, etc.
Okay.
Que c'est un peu entre l'hôtel puis le Airbnb, si tu veux. Ouais. Fait que là, Sander, eux, ils sont en train de faire ça. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des étages entiers puis les convertissent en ces espèces de résidences de moyen-long terme en vue d'être loués.
Hey, quand tu y penses, il y a quelque chose d'un peu... T'sais, je sais pas si c'est juste à cause que je pense à Québec, t'sais, au boulevard Laurier, mais il y a quelque chose d'un peu absurde dans le timing. T'sais, depuis quand même quelques années, bon, la population vieillit, on construit des, il y a des compagnies, t'sais, qui acquièrent des terrains au gros prix, qui construisent au gros prix des complexes de condos, de résidences pour justement cette clientèle-là de personnes qui, ben, au fil de leur vie commencent à se dire, ben, peut-être qu'on veut moins s'occuper d'une maison puis d'un terrain, on va redevenir locataire ou on va acheter un condo, mais t'sais, un endroit où on peut avoir plus de services. C'est que là, ils se construisent des affaires sur le long du boulevard Laurier. Francis, ça a poussé depuis les dernières années.
C'est,
là. C'est impressionnant. Puis tout d'un coup, toutes les grandes compagnies, les compagnies d'assurance, IA qui est là, la capitale et autres, ben là, eux commencent à se demander, oh, qu'est-ce qu'on fait avec nos espaces de bureau, nos pieds carrés, qui auraient pu, qui pourraient encore, mais qui auraient pu être convertis justement pour répondre à ce besoin-là. Le timing est spécial pour ça, là.
Le timing est spécial, mais honnêtement, comme tu sais, puis comme on en a parlé, moi, je tripe sur l'immobilier depuis très longtemps. Puis ce qui est un peu particulier, c'est qu'on aime ça regarder, tu sais, le prix là, de cette année puis d'aujourd'hui. Puis tu sais, c'est sûr que là, les prix ont beaucoup augmenté, fait que ça fait jaser pas mal. Mais je te dirais que les gens qui investissent dans le domaine de l'immobilier, puis quand tu regardes ce domaine-là, mais en général, c'est un univers de très long terme. Tu sais, tu construis ça, du béton, c'est haut, etc. Puis je vais te faire un pari, puis on se reparlera là, dans 5 ans. Là, mais je pense qu'à long terme, les gens ils vont revenir pas mal au bureau. Puis c'est un petit peu le résultat de nos différentes études. Ben, il y a plusieurs facteurs. Il y a une raison pour laquelle on a des centres-villes. C'est un peu drôle à dire de même, mais je veux dire, si tu te promènes sur le boulevard Laurier, justement, tu vas au petit café, tu vas au restaurant, tu croises un ancien client, un ami que tu n'avais pas vu, etc. Ça n'arrive pas beaucoup en Zoom de rencontrer du monde au hasard. Vrai, c'est comme vrai. C'est soit prévu ou soit tu n'y parles pas. L'autre affaire aussi qu'on a beaucoup regardé, là, comme je te disais dans l'étude qu'on a faite dans la pub, c'est évidemment, si, mettons, vous deux, vous trois, vous allez au bureau, puis moi, j'y vais pas. Ben là, vous allez justement à la machine à café, vous allez vous jaser, vous allez dire, hey, j'ai vu telle opportunité, j'ai entendu telle nouvelle, puis moi, je vais être en Zoom, tu sais, je vais être loin, puis tout ça. Fait que je vais manquer des opportunités, puis à la fin, quand le patron, il va dire, ben, j'aimerais ça promouvoir quelqu'un, il va promouvoir qui? Ben, celui avec qui il a jasé beaucoup ces derniers temps, qui a montré son. Fait que le danger, je pense, pour le l'hybride puis le travail à distance, c'est que ceux qui vont choisir un mode plus télétravail, ils vont risquer de manquer des opportunités. Donc, tu comprends qu'à terme, ça va les inciter à revenir plus souvent. Et donc, je pense pas qu'on va revenir à 100%, mais comme je te disais, il y a un effet un peu de distanciation qui va s'installer, puis ça, ça va rester un bon bout. Fait que, tu sais, mettons qu'on arrive à 60, 70, 75% de gens en présence au bureau. À mon avis, ça n'aura pas tant un grand impact sur la demande de pieds carrés. Il faut toujours regarder à long terme.
Ouais. Mais d'ailleurs, disons à moyen ou à long terme, là, pis dans le fond, on est parti des chalets puis on dévient un peu sur l'immobilier, mais c'est pas grave, ça m'intéresse au bout. Dans l'unifamilial, dans le résidentiel, je devrais dire, les prix ont vraiment explosé dans la dernière année, on l'a vu. Mais moi, je prétends, puis peut-être que je suis biaisé parce que je viens d'acheter un bungalow, mais je prétends que comme dans la région de Québec, ici, la proportion de notre salaire qu'on utilise pour se loger est encore relativement basse. J'ai l'impression que oui, les prix ont explosé, mais que c'est peut-être quasiment une forme de correction, même si ça a augmenté très, très rapidement par rapport à Montréal et à d'autres grandes villes. Est-ce que c'est complètement farfelu comme théorie? Est-ce que ça va plutôt se corriger à la baisse dans les prochaines années? Qu'est-ce que t'anticipes?
Écoute, je suis pas Nostradamus, pas Raphaël, mais je pense que tu as raison en partie. Puis tu compares à Montréal, mais tu sais, même il y a quelques années, là, j'étais en voyage à Paris, puis je parlais avec des gens.
Là, à Paris, c'est pas compliqué. Ils se lèguent des hypothèques des parents aux enfants,
Puis je parlais avec des banquiers, là, en tout cas, puis c'est un truc qu'ils m'ont dit, là, ils m'ont dit, on a fait une analyse de toutes les villes dans le monde, puis ils analysaient plein d'affaires, là, la sécurité, la valeur à long terme, le statut, l'état de l'économie, là, puis ils ont dit, il y a une ville en ce moment qui est extraordinaire, puis c'est Montréal, tu sais, puis parce que le rapport entre le prix d'achat, puis tous les autres paramètres, là, que c'est quand même, puis par extension, évidemment, Québec, là, c'est-à-dire que le Québec est c'était comme. Puis tu regardes là, ce qui s'est passé à Vancouver et Toronto ces dernières années. Évidemment, on ne souhaite pas là, que l'immobilier soit inaccessible.
Mais non, mais si le marché a fait que ça s'est développé comme ça, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas semblable ici.
Effectivement. Donc, j'ai peu de crainte que le marché va tomber ou s'effondrer ou quoi que ce soit. Est-ce que ça va continuer à croître à ce rythme? À un moment donné, ce n'est pas soutenable. Là, des croissances à 10-15%, le monde, ils ne seront plus capables de payer. Puis il y a un facteur qu'on sous-estime. Hein. J'en ai parlé, il me semble, avec toi, Paul Raphaël, il y a quelques semaines. Mais cette année, on n'a pas voyagé, on n'a pas fait grand-chose. Oui, on s'est acheté des tondeuses électriques. Là, mais les gens ont beaucoup de liquidités. L'État, évidemment, pour le meilleur et pour le pire, a été très généreux. On a reçu des subventions salariales, des subventions de ci, de ça. Pas de business au Québec qui n'a pas reçu de subventions. On a de l'argent. Puis les taux d'intérêt, là, moi, écoute, j'ai déménagé l'été dernier, des taux d'intérêt à 2%, en bas de 2%.
En bas de 2%, ouais.
ça fait que tu peux bien payer un petit 10 000, un petit 20 000 de plus pour ta maison parce que finalement, sur le paiement hypothécaire, ça change pas grand-chose quand les taux sont tellement bas. Fait que c'est un peu aussi pour ça qu'il y a eu l'espèce d'inflation dans les prix. Puis je pense que tôt ou tard, on va un peu corriger. On va arrêter déjà de subventionner tous et toutes. On va peut-être rehausser tranquillement les prix, les taux d'intérêt, mettons, dans les deux, trois prochaines années. Mmh. Puis je pense que ça va amener une certaine stabilisation des prix. Donc, je suis pas craintif que ça va baisser, mais je pense que ça va tendance à se stabiliser. Puis évidemment, comme tu disais, on s'est un peu normalisé. Dans le fond, tu parlais de correction. Là, j'ai vu sur Internet des gens qui montrent des graphiques que le Canada, en proportion, a beaucoup augmenté. Oui, mais c'est parce que c'était tellement peu cher ici. Ouais. Puis encore une fois, je suis sensible aux gens qui ont plus de difficultés à se loger et tout ça. Mais ça reste que dans une ville allemande où tu parlais de Paris. Là, je veux dire, à Paris, c'est comme quatre fois plus cher.
Ah non, ça n'a pas de sens.
Là, ça n'a pas de sens. Quatre fois, ça a comme pas rapport.
Hey, merci Francis d'avoir pris du temps pour nous. Tu vas écrire un prochain texte sur le sous-univers méconnu de l'immobilier que sont la vente de terrain. Il va falloir qu'on se parle de ça dans une prochaine chronique. Ça va être bien intéressant.
Avec grand plaisir. C'est un peu la suite logique des chalets.
Ben
si tu n'as pas envie d'acheter le chalet, ben achète-toi genre du gazon.
C'est pas pire en plus parce que les matériaux de construction sont pas trop chers ces temps-ci. C'est une blague. OK.
Une aubaine.
Merci Francis, passe une belle journée. Salut, bye bye. Francis Gosselin, notre économiste d'Ette Metal, qui est aussi, j'ai dit une bolée de l'immobilier, mais sincèrement, Francis, il s'y connaît énormément dans le domaine. Et puis, si vous vous posiez la question là, par rapport aux accessoires, je sais que c'est niaiseux, j'en viens là-dessus, mais les accessoires sans fil à batterie, là, le site sur lequel tantôt Francis m'a envoyé s'appelle I Go Cordless. Fait que, J'y vais pas de corde. Ils vendent de tout. Attention, il y a une blague qui s'en vient. Ils vendent de tout. Tondeuse, souffleur à feuilles, souffleur à neige même, taille-haie, des brosses à poils pour faire nettoyer le terrain et non pas prendre un coup tout nu.
D'accord.
L'avez-vous pogné au moins? Oui, OK.
Oui, quand même.
Oh boy, 8h02. Grouillez pas. Grouillez pas, on va essayer de faire mieux après la pause.
Que Québec se lève. De retour après la pause.